Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le manager, bienveillant 2.0 est un guide de management de Gaël Châtelain-Berry, publié chez First, qui adapte la notion de management bienveillant aux réalités du télétravail et des outils numériques. Inscrit dans la continuité de mon boss est nul mais je le soigne. Le livre part du constat que la crise sanitaire a durablement modifié les attentes envers le travail, la relation hiérarchique et la place du collectif. Son objet est moins de proposer une méthode rigide que de rappeler les comportements qui permettent de préserver la confiance, la motivation et la qualité des relations lorsque les collaborateurs ne partagent plus constamment le même espace. L'auteur défend une approche pragmatique du rôle managérial, fondée sur le respect, l'écoute, la clarté et la responsabilité. Il traite notamment de la communication à distance, des émotions, de la délégation, de la conciliation entre travail et vie personnelle, ainsi que de la nécessité pour le manager de prendre position. L'ouvrage relève donc du guide professionnel accessible, nourri par une expérience concrète de l'encadrement et orienté vers des pratiques immédiatement applicables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le télétravail transforme la présence managériale en qualité de lien. Le point de départ du livre est une transformation durable du travail collectif. Lorsque les membres d'une équipe se rencontrent moins souvent, les signaux ordinaires de la vie de bureau deviennent plus difficiles à percevoir. Un retard inhabituel, une baisse de participation, une fatigue ou une tension peuvent rester invisibles derrière une suite de visioconférences. Le manager ne peut donc plus confondre contrôle visuel et accompagnement réel. Il doit organiser une présence relationnelle qui ne soit ni intrusive ni distante. Cela suppose des échanges réguliers, des temps individuels et une attention portée aux conditions concrètes dans lesquelles chacun travaille. Le livre insiste ainsi sur le maintien du lien et sur la capacité à motiver malgré la distance. Cette orientation évite un écueil fréquent du management numérique qui consiste à multiplier les réunions et les outils afin de compenser l'absence physique. La multiplication des sollicitations peut au contraire accroître la fatigue et donner une impression de surveillance. La question pertinente devient alors la qualité des interactions, sont-elles utiles, respectueuses du temps disponible et capables de faire émerger les difficultés. Le télétravail impose aussi de clarifier les objectifs, les priorités et les marges de décision. Sans ces repères, l'autonomie vantée par le travail à distance peut se transformer en isolement. La bienveillance décrite ici repose donc sur une proximité intentionnelle, adaptée aux personnes et compatible avec leur autonomie. Deuxièmement, la bienveillance associe exigence, courage et responsabilité. Le livre refuse de réduire la bienveillance à la gentillesse ou au renoncement aux exigences professionnelles. Dans cette perspective, un manager peut devoir recadrer, trancher ou traiter une situation difficile tout en restant respectueux des personnes. La différence se situe dans la manière de faire expliciter les attentes, écouter les faits, assumer une décision et éviter les humiliations ou les ambiguïtés. Cette conception donne une place importante au courage managérial. Prendre position sur un sujet qui compte pour une équipe, intervenir face à un comportement problématique ou défendre ses collaborateurs auprès de la hiérarchie relève aussi de la bienveillance. L'humilité complète cette exigence. Elle invite le responsable à placer les intérêts de l'équipe avant la protection de son statut, à reconnaître ses erreurs et à ne pas prétendre tout savoir. Le modèle proposé est souvent résumé par une répartition entre coach, leader et bienveillant. Le coach aide chacun à progresser, le leader donne un cap et prend les décisions nécessaires, tandis que la dimension bienveillante protège la qualité humaine du cadre de travail. Ces rôles ne sont pas séparés dans la pratique. Une délégation, par exemple, exige à la fois de la confiance, des objectifs compréhensibles et un suivi juste. Cette approche permet de distinguer une autorité constructive de l'autoritarisme. Elle rappelle que la performance durable ne naît pas de la peur, mais de règles lisibles, de décisions assumées et de relations où chacun conserve sa dignité. Troisièmement, écouter les émotions sans médicaliser la relation de travail. La distance modifie la manière dont les émotions circulent dans une équipe. En présentiel, une conversation informelle ou une attitude inhabituelle peuvent alerter un responsable. Par téléphone ou en visioconférence, ces indices sont plus limités et les malentendus sont plus faciles. Le livre invite donc le manager à développer une écoute active, sans prétendre devenir thérapeute ni envahir la sphère privée. Son rôle consiste à créer les conditions permettant aux collaborateurs de signaler une difficulté, de demander une adaptation ou de parler de leur charge de travail. Cette nuance est essentielle, prendre soin ne signifie pas exiger des confidences, mais reconnaître que les émotions influencent la coopération, la concentration et la capacité à tenir dans la durée. Une écoute crédible passe par la disponibilité, des questions ouvertes, une réaction mesurée et le respect de la confidentialité. Elle implique aussi que le manager gère ses propres tensions. Un responsable qui diffuse son stress, répond brutalement ou transforme chaque échange en urgence fragilise la sécurité relationnelle de son équipe. Le livre relie ainsi le bien-être à des pratiques ordinaires saluées, respecter les horaires, organiser des réunions utiles et rédiger des messages qui ne créent pas inutilement de pression. Ces gestes ne sont pas accessoires, ils déterminent le climat quotidien dans lequel les problèmes peuvent être exprimés assez tôt. La gestion des émotions devient alors un élément de prévention et de coopération, plutôt qu'un discours abstrait sur le bonheur au travail. Quatrièmement, la confiance et la délégation donnent un contenu réel à autonomie. Dans un environnement hybride ou distant, la confiance ne peut pas rester une déclaration de principe. Elle se traduit par la délégation, par la reconnaissance de compétences et par une évaluation davantage centrée sur les résultats que sur la visibilité. Le livre présente le manager bienveillant comme quelqu'un qui accepte de donner de la latitude à son équipe. Cette posture permet aux collaborateurs de prendre des initiatives et de mobiliser leur créativité. Mais elle exige une organisation précise. Déléguer sans clarifier le résultat attendu, les échéances, les ressources et les limites de décision revient à transférer un problème plutôt qu'une responsabilité. Inversement, contrôler chaque étape annule la promesse de l'autonomie et réduit le sentiment de confiance. L'intérêt de cette réflexion est de montrer que la confiance repose sur un équilibre. Le manager fixe un cadre explicite, rend les priorités compréhensibles et reste disponible pour lever les obstacles. Le collaborateur dispose ensuite de la marge nécessaire pour choisir ses moyens et signaler ses besoins. Cette logique est particulièrement importante à distance, où les demandes de validation permanente peuvent ralentir le travail et entretenir une dépendance inutile. Elle aide aussi à distinguer autonomie et abandon. Un membre de l'équipe autonome ne doit pas être laissé seul face à une difficulté. Surtout lorsque les occasions de demander de aide sont moins spontanées, la bienveillance prend ici une forme opérationnelle, donner le droit d'agir, accepter que les méthodes diffèrent, soutenir l'apprentissage et reconnaître les contributions sans capturer tout le mérite. En dernier lieu, inclusion et équilibre de vie élargissent le devoir du manager. Le livre inscrit la responsabilité managériale dans un cadre plus large que la seule atteinte des objectifs. Il aborde la nécessité de respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Enjeu devenu plus visible lorsque le domicile devient aussi un lieu de travail. Le numérique peut effacer les frontières temporelles par les messages tardifs, les réunions excessives ou attentes de disponibilité continue. Une démarche bienveillante consiste donc à poser des limites collectives et à ne pas faire de urgence permanente une norme. Elle demande également de tenir compte des situations individuelles, sans instaurer de traitement arbitraire. Les contraintes de logement, de charges familiales, de santé ou de rythme de travail ne sont pas identiques pour tous. Adapter certains modes de coopération peut être nécessaire afin que le télétravail ne crée pas de nouvelles inégalités. Cette attention rejoint la place accordée à l'inclusion. Pour Châtelain-Berry, la bienveillance implique de porter attention aux discriminations liées notamment au genre, à origine, à la religion, à orientation sexuelle ou à la couleur de peau, et de ne pas rester passif face à elles. Ce point donne une dimension éthique au rôle de manager. Il ne se limite pas à entretenir une bonne ambiance. Il doit contribuer à un cadre où les personnes peuvent travailler avec respect et sécurité. La cohérence compte particulièrement. Une entreprise ne peut valoriser le bien-être tout en tolérant des comportements excluants ou des pratiques qui épuisent les équipes. Le manager est alors un relais concret entre les principes affichés et expériences quotidiennes du travail. En conclusion, le manager bienveillant 2.0 s'adresse en priorité aux responsables de proximité, aux nouveaux managers et aux cadres qui doivent animer une équipe en télétravail, en mode hybride ou dans un environnement fortement numérisé. Il peut aussi intéresser les responsables des ressources humaines et les collaborateurs qui cherchent à comprendre les conditions d'une relation managériale plus saine. Son apport pratique réside dans le rappel de comportements simples mais structurants à écouter réellement, clarifier les attentes, déléguer, respecter les temps de vie, traiter les tensions et assumer les décisions difficiles. Le livre ne présente pas la bienveillance comme une solution magique aux contraintes organisationnelles. Il la replace plutôt dans une logique de fonctionnement. Une équipe engagée a besoin de confiance, de repères, de reconnaissance et d'un cadre protecteur pour coopérer durablement. Par rapport à de nombreux ouvrages de management généraliste, sa singularité tient à son ancrage explicite dans les bouleversements provoqués par le travail à distance. Il ne se contente pas de transposer des conseils de bureau dans une visioconférence. Il interroge ce que la distance change dans la perception des émotions, dans la circulation de l'information, dans la motivation et dans la frontière entre travail et vie privée. Son ton accessible et son orientation vers des exemples concrets le distinguent également des essais plus théoriques sur le leadership. Enfin, il défend une idée nette: bienveillance et exigence ne s'opposent pas. Cette articulation rend le livre utile aux lecteurs qui souhaitent améliorer leur pratique sans renoncer à la responsabilité, aux résultats et à la clarté des décisions. Si vous souhaitez soutenir Gaël Châtelain-Berry, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.